défi permanent que pose l'interception du trafic. Oui, enfin, c'est rien de nouveau en même temps. Hein. On sait bien que, voilà, si c'est pas des tomates, c'est du melon. Si c'est pas du melon, c'est je sais pas. Enfin, bon, bref, on a l'habitude. Puis si c'est pas des camions, des bateaux, bah, ça va être des go fast ou des go slow. Bref, bon, on n'apprend pas grand chose finalement là-dessus, à ce niveau-là. Ce qu'on retient, c'est que toujours aujourd'hui, en 2023, bon, en 2024, le cannabis est la substance illicite la plus consommée en Europe. Voilà.
Rien de nouveau sous le soleil, hein.
Bah, pas vraiment. Alors là,
une... on le savait déjà, mais bon, bah, oui, mais bon, fait, cette année encore.
Voilà. Oui, exact. Ouais.
Voilà. Voilà, donc, et les chiffres, c'est pas mal. C'est 8% quand même pour le cannabis, hein, dans l'année. Et quotidien, je crois qu'il y a le chiffre, c'est ça qui est intéressant. Bon, allez voir.
Alors, plus loin dans cet article, il nous parle des puissances qui sont détectées sur les produits, enfin là, sur le cannabis, avec des niveaux de THC moyens atteignant un peu moins de 25% pour la résine et environ 10% pour l'herbe. Voilà, bon, il se focalise sur le THC, ce qui est pas non plus très malin, je trouve. On parle d'une nouvelle variété, de nouvelles variétés de produits, y compris des extraits, des édibles aussi, qui peuvent être saisis. Tendance récente indique que les itinéraires du trafic de cannabis se diversifient, puisqu'il voilà, il nous parle de saisies dans des endroits comme le port d'Anvers, en Belgique, montrant de la résine de cannabis en provenance du Pakistan. Pas grand chose de nouveau là non plus, à mon avis. Ensuite, il nous parle des réponses politiques et des changements qui sont opérés dans différents pays comme Malte, le Luxembourg, l'Allemagne, avec des législations qui ont évolué ces derniers mois. Avec l'Allemagne, bah, on sait bien.
On en a pas mal parlé.
On a quand même beaucoup parlé. Les clubs qui vont ouvrir. Il nous parle aussi de la République tchèque qui prévoit de mettre en place un système de distribution réglementée et taxée. Il nous parle aussi de la Suisse et de ses essais, et des essais également qui ont lieu aux Pays-Bas, qui testent une chaîne, je cite, hein, qui testent une chaîne d'approvisionnement en cannabis fermée pour résoudre le problème de l'approvisionnement des coffee shops par le marché illégal, et donc qui
sera remplacé par
un marché légal.
C'est bien, parce que c'est vraiment l'article, on va dire, complet, bien fait.
Ouais, à ce niveau-là, c'est vrai.
Nous, oui, on a fait le résumé, mais bon, voilà. Ouais, il faut quand même avoir la base. Et c'est là que c'est. Donc, on parlait de 8%. Là, c'est 3,7 millions donc, qui utilisent du cannabis quotidiennement. 1,3%, 3,7 millions.
Alors, attends.
C'est un des chiffres les plus élevés que j'ai trouvé dans un document officiel à ce jour, je pense.
Pour l'usage quotidien ou quasi quotidien. D'accord. 1,3% de tous les Européens, bien.
On le ramène aux 8,8 millions qui utilisent toutes les années. Ouais, bon. Ça fait presque un facteur. Ouais, non, c'est bien.
C'est bien,
c'est intéressant.
Bien, alors, oui, enfin voilà, donc, voilà les chiffres, en tout cas, les dernières données de 2023 dans le rapport de l'OEDT, étude qui est visible sur le site de l'EMCDDA. Voilà, donc c'est l'European, je sais pas quoi, enfin bon, qui s'occupe de publier ses recherches et enfin ses statistiques au niveau de l'EDT. C'est tous les ans ce rapport paraît. J'ai pas l'impression qu'on apprenne grand chose, mais bon, au moins on est tenu au courant des données actuelles. Voilà. On va s'intéresser un petit peu à la cocaïne en Île-de-France, puisqu'on en a parlé un petit peu.
Juste pour finir quand même, parce que pourquoi je trouve que c'est bien ces chiffres, c'est pas parce que on les voit souvent, c'est qu'on les voit rarement.
Bah, tous les ans.
Ouais, mais voilà, non, mais je veux...
Bah, tous les ans, il y a le rapport de l'OEDT, puis tous les ans, le rapport de l'OFDTA. Donc bon, voilà. Mais effectivement, une fois par an, peut-être c'est pas assez.
Ouais, non, de 1,3% et 8%, oui, c'est bien.
8%, alors c'est quoi 8%?
Ben, 8%, c'est ceux qui ont consommé dans l'année.
D'accord, ok.
Bon, bref. Allez, un petit coup de musique, c'est ça, non?
Bah, je sais pas, tu m'as perdu là. Bon.
T'avais autre chose ou...
Non, non, j'étais parti sur l'article suivant. Vas-y, allez, bah, musique, à tout de suite.
Ouais, je sais plus.
C'est bon, bah, on sait plus.
Si j'y suis, j'y arrive, on est là.
Clature. Mon ami, c'est... Défense, défense, tout le monde a sa défense. Défense, défense, tout le monde a sa défense. Personne n'a pose de questions, mais ils ont des réponses. Les spécialistes sont des cons et c'est ça qu'on dénonce. Là, à la cavocage, au touchy, à la bière, au ricard, au pina, au triclo, à la colle, au champignon, la tête dans son bar. Chacun sa manière, certains font ça du matin jusqu'au soir. Les poivrons sont fiers car ils disent que se bourrer la gueule, c'est légal. Défense, défense, tout le monde a sa défense. Défense, défense, tout le monde a sa défense. Je fume le joint et de temps en temps, je me tape un petit punch. Mais ça ne veut pas dire que je sois une éponge. Car j'ai vu sur les pieds comment l'alcool s'arrange. C'est pas dans la cam les cachets ou l'alcool que je plonge. Moi je préfère le petit joint qui perfectionne mes songes. Alors goûtez, essayez car ce n'est pas un mensonge. Mes amis c'est défense, défense, tout le monde a sa défense. Défense, défense, tout le monde a sa défense. La copine amitaire en François Sagan se défonce. Elle ne veut de Pasqua, carrément je le dénonce. Mais au tribunal ce n'est pas au qu'on enfonce. Faut voir tout ce que ces gens-là se mettent dans la tronche. Défense, défense, tout le monde a sa défense. Défense, défense, tout le monde a sa défense. Car tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde a sa défense. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde a sa défense. Mon ami c'est tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde a sa défense. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde a...
Tout le monde a sa défense, ouais. Tout le monde a sa défense, aïe aïe aïe. Tout le monde a... Tout le monde a sa défense, man, ah ouais. Tout le monde a sa défense, ouais.
Les Babylon come, les Rastaman, hey. Les Babylon come, les Rastaman, car tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde a sa défense. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde a...
Tout le monde a sa défense, ouais. Tout le monde a sa défense, aïe aïe aïe. Tout le monde a... Tout le monde a sa défense, man, ah ouais. Tout le monde a sa défense, frère.
Les Babylon come, les Rastaman, hey. Les Babylon come, les Rastaman, car tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde a sa défense. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde.
À la camo caché, au tchi, à la bière, au ricard, au pinard, au triclo, à la colle, au champignon, la tête dans son bar.
Chacun sa manière, certains font ça du matin jusqu'au soir. Les poivrons sont pires car ils disent que pour la gueule c'est légal.
Défense, défense, tout le monde a sa défense. Défense, défense, tout le monde a sa défense. Je fume le joint et de temps en temps je me tape un petit punch. Mais ça ne veut pas dire que je sois une éponge. Car j'ai vu sur les vieux comment l'alcool s'arrange. C'est pour la cam les cachés ou l'alcool que je plonge. Moi je préfère le petit joint qui perfectionne mes songes. Alors goûtez, essayez car ce n'est pas un mensonge. Mon ami c'est défense, défense, tout le monde a sa défense. Défense, défense, tout le monde a sa défense. Comme une amie terre en François Sagan se défonce. Elle ne veut de Pasqua, carrément je le dénonce. Mais au tribunal ce n'est pas au con. On enfonce, faut voir tout ce que ces gens-là se mettent dans la tronche, docteur. Défense, défense, tout le monde a sa défense. Défense, défense, tout le monde a sa défense. Car tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde a sa défense. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde a sa défense. Promis, c'est tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde a sa défense. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde a... Tout le monde a sa défense, ouais. Tout le monde a sa défense, aïe aïe aïe. Tout le monde a... Tout le monde a sa défense, man, ah ouais. Tout le monde a sa défense, ouais.
Les Babylon come, les Rastaman, hey. Les Babylon come, les Rastaman, car tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde a sa défense. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde a...
Tout le monde a sa défense, ouais. Tout le monde a sa défense, aïe aïe aïe. Tout le monde a... Tout le monde a sa défense, man, ah ouais. Tout le monde a sa défense, ouais.
Les Babylon come, les Rastaman, hey. Les Babylon come, les Rastaman, car tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde a sa défense. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Fumer un petit joint c'est agréable. Fumer un petit joint c'est doux. Mais il ne faut plus le rouler sous la table. Car tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde a sa défense. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde a sa défense. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde a sa défense. Défense, 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 défense,
défense, défense, défense, défense, défense, défense, défense, défense, défense, défense, défense, défense, défense, défense, défense, défense, défense. Tout le monde a sa défense.
Oui, c'est qui nous chantait ça? Je me rappelle plus.
C'était La Tribu.
D'accord. Petit morceau sympathique.
La tr.i.b.u. Défense. Voilà. voilà.
Bien, bien.
Le tout premier, musique de chambre.
Petite musique de chambre.
Il y a 30 ans.
Il y a 30 ans, au moins. Voire plus, mais. Bon, allez, on va parler de l'article du Parisien. Sur,
sur la coco.
Sur le. Voilà, 66 euros.
C'est
le
du
gramme.
Pot, là, ça a 30 jours des JO, ils nous apprennent ça.
Bon.
Eh ben, ça va être fait dans l'île de France, hein, je vous dis, moi, c'est-à-dire. Un tsunami blanc qui dise l'Office central de lutte contre le trafic de drogue. Qu'est-ce qu'on en dit de tout ça? La cocaïne, bon, ça vient d'où? D'Amérique du Sud.
Je sais pas.
Qui sait, ça en s'alimente où? Ben, en Belgique. Avec, dans une moindre mesure, au Havre.
Et à Dunkerque.
Et Dunkerque, oui. Voilà, tout arrive en tonnes, par tonnes d'Amérique du Sud et par voie portuaire.
Oui, alors bon, je précise. Tu m'as coupé. Ah, merci. Je précise, c'est quand même un article du Parisien qui est tout petit et qui est pas très détaillé. Donc, je trouve que c'est quand même un peu rapide comme analyse. Je vais quand même préciser ça. Parce que là, l'article, en gros, il nous dit aussi que si tout ça, ça arrive, c'est parce qu'il y a de la corruption chez les dockers, dans les aéroports, le personnel des aéroports et à la police aux frontières. Voilà, donc bon, c'est un peu rapide comme analyse. Je suis pas sûr que structurellement le marché de la coke dépende uniquement de quelques individus corrompus dans les aéroports, chez les douaniers ou sur les dans les ports, quoi.
Ah, mais c'est des gens qui sont juste soudoyés un petit peu.
Oui, non, mais voilà. Enfin là, cet article, là, c'est un peu ça que je vise, même si effectivement. Il semblerait qu'il y en a pas mal qui arrivent. C'est quand même un peu ce qu'ils nous disent. Alors, c'est quand même aussi d'abord d'après un rapport de l'OFDT voilà, qui nous dit qu'en fait, maintenant, la coke touche toutes les couches de la population qui l'utilise de manière récréative. Et c'est pas nouveau non plus. Hein. Je trouve que quand même, là, dans les articles, on nous sort des phrases. On a l'impression que ça, qu'ils découvrent la lune tous les quatre matins. Après, bon, c'est vrai que nous, on anime cette émission depuis plusieurs décennies et qu'on a un peu l'habitude de voir ce qui s'écrit dans la presse écrite, ce qui nous raconte. Et ce qu'on nous dit aussi, c'est que, et qui est pas très nouveau non plus, hein, c'est que la coke peut aussi servir à pas mal de salariés sous pression dans leur boulot qui font des métiers physiques et qui voilà, utilisent la coke un peu pour assurer leur rythme et leur tâche quotidienne dans leur job, quoi. Mais on l'a déjà vu ça aussi dans la restauration il y a quelques années, on en avait pas mal parlé, alors pas que de la coke, hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, pour finir, ils nous disent, bon, bah, rien de surprenant non plus, que les moyens mis en œuvre par les importateurs sont importants, très importants, car les sommes en jeu dans le trafic de cocaïne sont énormes. Oui, rien de nouveau non plus. Parce qu'au Brésil. Tu n'as pas mis ton micro. C'est ennuyeux. Si tu le mets, on t'entendra mieux.
Vas-y, je t'en prie.
Voilà, non, juste, voilà, ils nous disent qu'au Brésil, un kilo de coke vaut 5200 euros et qu'ensuite, il est racheté environ 30 000 euros par les dealers français qui le revendent, et revendu ensuite le double au détail auprès des consommateurs franciliens à environ 66 euros le gramme. Voilà. 66 euros le gramme, voilà, bon. Je sais pas, je ne m'y connais pas suffisamment. Je ne sais pas si c'est plus cher qu'il y a 10 ans, 20 ans ou.
C'est moins cher.
Beaucoup moins cher, donc ce qui le rend beaucoup plus abordable. Et effectivement, pour le démocratiser ce produit, si le prix baisse, j'allais pas dire l'idéal, mais effectivement, c'est pratique pour le commerce.
Après, il faudrait demander des spécialistes de ce produit.
Oui, bah ça comme tout produit, bien sûr. Voilà, donc bon, ça part d'un rapport de l'OFDT, et c'est un peu taillé à la serpe, hein, au niveau de l'analyse, mais bon, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et lu, hein, par le passé, qu'effectivement, il y avait de la corruption dans la police, les douanes et chez les dockers. ou chez les routiers pour acheminer.
On a même vu des articles du contre-espionnage ou de je ne sais plus quels analystes qui en parlaient justement de ce TSAP, de ce travail sur les gens.
Un gros article du Monde il y a quelques mois, oui.
Tout à fait, voilà, ouais, c'est ouais. Ça. Pour moi, c'est, voilà, c'est cette résonance qui monte, qui n'est quand même pas rien du tout non plus.
Non, mais bon, c'est quelque chose qu'on a lu par le passé il y a plus longtemps qu'il y a quelques mois dans l'article du Monde. C'est, je veux dire, il y a au moins une dizaine d'années déjà. Voilà, parce que, bon, effectivement, comme c'est dit à la fin de l'article, les sommes en jeu sont quand même tellement conséquentes que ça peut convaincre pas mal de gens de, voilà, de faire passer, d'acheminer, bref. Voilà, par exemple, quelqu'un qui vient des Antilles, de Guyane ou du Brésil, ben, par exemple, il peut recevoir 5000 euros pour faire la mule, quoi. Pour voyager avec des petites olives à l'intérieur de lui-même. Voilà. Allez, on va parler un peu de cannabis médical en Pologne. Voilà. Donc, ce sont des données qu'on va vous délivrer, qui nous viennent du Centre polonais de recherche sur l'opinion publique. Alors, c'est un article de Newsweek qui a récemment révélé donc le Centre polonais de recherche sur l'opinion publique, hein, qui a révélé récemment que 73,4% des Polonais soutiennent aujourd'hui la dépénalisation du cannabis. Les Polonais sont assez cannabinophiles, ou en tout cas pas hostiles à l'idée d'une légalisation. Je précise aussi qu'en France, la plupart des gens ne le sont pas non plus, hein, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Y a aussi, paraît-il, en Pologne, une grosse augmentation de la demande de cannabis médical, un secteur qui a connu une très forte croissance depuis la légalisation du cannabis médical en Pologne en 2017. Je ne me rappelais pas. Tiens, on n'en parle pas souvent de la Pologne. Et bien, depuis 2017, donc 7 ans en tout cas, le cannabis médical légal, je ne sais pas dans quelle mesure et sous quelle modalité, mais en tout cas, a priori, ça peut l'être. Et donc, on apprend qu'en 2019, il n'y avait eu que 2909 prescriptions de cannabis qui avaient été délivrées. Cannabis médical, hein. Mais alors là, en 2023, c'est passé à 276 807, ce qui marque une augmentation de plus de 9400% au cours de cette période, donc en seulement 4 ans, quoi, entre 2019 et 2023, ce qui est quand même balèze. Et la quantité délivrée en pharmacie également a augmenté, puisqu'elle passe de 33,2 kg en 2019 à 4659 kg. En 2023, soit une hausse de plus de 13 900%. Voilà, donc les pourcentages à ce niveau-là, on ne sait pas si c'est vraiment... Enfin, en tout cas, voilà, une augmentation très importante d'ordonnances et de délivrance de cannabis médical en Pologne. Alors, plusieurs facteurs pourraient expliquer ces hausses. Bah, au départ, on apprend dans cet article, hein, que l'offre était limitée et que beaucoup de médecins étaient hésitants à la prescrire, en raison d'absence de lignes directrices claires et de la stigmatisation qui était associée à la consommation du cannabis. Mais au fil du temps, eh bien, les professionnels de santé se sont familiarisés avec les avantages médicaux du cannabis. Et il y a aussi eu de nouvelles sources de prescriptions qui ont été développées. La mise en œuvre du e-Recepta, qui est un système en ligne qui simplifie l'accès aux ordonnances médicales, et y compris au cannabis médical, qui a été déterminante. Et aujourd'hui, bien, les patients peuvent demander des ordonnances et, après une brève consultation virtuelle, recevoir un code qui leur permet d'acheter le médicament dans n'importe quelle pharmacie. Alors voilà, quand on lit ça, franchement, je sais pas où en Europe j'ai lu quelque chose d'aussi performant. Même. Parce que là, en Allemagne, on n'en est pas là encore. Hein. Mais bon, voilà, s'ils ont légalisé depuis 2017, ou en tout cas fait une avancée à ce niveau-là, c'est sûr que, au bout de 7 ans, ça peut commencer à être bien. Puis il y a autre chose, hein, il y a quelque chose qui a émergé, hein, c'est les cliniques spécialisées dans le cannabis, connues sous le nom de Clinica Konopna. Clinica Konopna, voilà, qui signifie clinique du cannabis en polonais. Et elles sont dirigées par des médecins qui sont spécialisés dans le cannabis médical et qui sont plus susceptibles d'en prescrire, notamment pour la maladie de Parkinson et aussi d'autres affections comme le syndrome de stress post-traumatique, l'anxiété et les troubles du sommeil. Et récemment, il y a une étude qui a montré que 47% des consommateurs du cannabis en Pologne obtiennent leurs ordonnances auprès de ces dispensaires, tandis que 32% utilisent le système e-recepta. Et seulement 13% d'entre eux font appel à d'autres médecins spécialistes et 7% à des médecins traditionnels. Et l'accès au cannabis médical en Pologne varie selon les régions. Bon, c'est toujours un peu comme ça. Et donc, c'est pas étonnant de voir que les pharmacies des petites villes manquent de stock et les patients doivent s'assurer que les pharmacies disposent du médicament avant de demander une ordonnance. Et le vice-ministre de la Santé a récemment annoncé qu'il serait envisagé d'augmenter le volume du cannabis importé afin d'en améliorer l'accès. Et là, par contre, c'est plutôt au niveau du ministère de la Santé qu'il y a un peu une résistance, je trouve, puisque Isabella Legina a déclaré que la Pologne n'est pas prête pour la légalisation du cannabis et qu'elle devrait être mieux informée avant que cela ne se produise. Voilà, donc probablement il va y avoir plus d'autres obstacles à surmonter avant que tout ça se mette en place, notamment, je pense, surtout pour tout ce qui est récréatif, parce que là, quand même, au niveau du thérapeutique, à lire l'article, ça semble presque bien, quoi. Alors, je sais pas si ça va continuer ou ça va peut-être même s'améliorer encore. Donc voilà, si vous êtes une personne qui souffre et qui pouvez ou voulez vous soigner avec du cannabis médical, eh bien peut-être que vous trouvez des solutions qui sont adaptées à vos affections et à votre pathologie, peut-être que c'est là-bas qu'il faut aller, c'est en Pologne. Voilà. En tout cas, espérez que les politiques français s'inspirent du modèle polonais. Voilà. Après, le plombier polonais, le médecin et le cannabis polonais. Pourquoi pas? Non, malheureusement, je pense qu'on n'en est pas là encore et que, voilà, vu les résultats des prochaines élections, voilà, je sais pas. On verra comment ça se passe dans une semaine, puis dans 15 jours. En tout cas, l'élan actuel en France n'est pas celui du cannabis, quel qu'il soit, hein, ça c'est sûr.
Bon, un dernier petit article sur l'Europe.
Oui, alors là, c'est... on va aller en Angleterre. Voilà, on va traverser la Manche.
On n'est plus en Europe, c'est vrai, pardon.
Un peu quand même. Un peu quand même. Continentalement aussi. Voilà, bon.
Ils n'étaient déjà pas dans la même monnaie, donc ça n'a pas changé grand-chose.
Oh. Tu es anglophobe.
Bah non, pas plus que ça.
Bon, alors là, on va parler du cannabis médical made in Britain, puisqu'il y a une boîte qui s'appelle Glass Farms, qui a officiellement livré sa première récolte à un dispensaire basé au Royaume-Uni qui s'appelle Relief. Voilà, et donc c'est la première fois depuis la légalisation du cannabis médical qu'un produit qui est cultivé localement en Angleterre est mis à la disposition des patients anglais. Et donc c'est une étape quand même importante dans le développement de ce marché qui a longtemps été paralysé par sa dépendance à l'égard des produits importés, son impact sur les chaînes d'approvisionnement, mais surtout paralysé par, par ses politiques, hein. Puisque voilà, là-bas aussi il y en a qui sont contre, mais c'est un peu plus démocratique, j'ai l'impression, en Angleterre, et du coup ça a fait son trou quand même. Et en tout cas, voilà, il y a une boîte de cannabis médical qui le cultive, qui s'appelle Glass Farms, et qui est opérationnelle et qui peut commencer à livrer des centres compassionnels ou des dispensaires qui proposent du cannabis à des personnes qui souffrent. Voilà.
Donc voilà, lui en fait, Relace, il a accepté d'acheter autant que leur première production que possible. Autant de leur première production que possible. Et il a trouvé un partenaire qui, pour s'occuper du stockage, de la finition et du conditionnement du produit de Glass Farm, encore toujours, en fleur médicale de la marque Relief. Voilà, c'est tout, on aura fait un peu de pub pour ces gens-là.
La Relief, c'est le dispensaire.
Ah, ils ont fait un pas contrat, plusieurs mois, des semaines, etc.
Oui, enfin bon, peu importe, mais l'info importante, c'est voilà, de pouvoir dire qu'effectivement, il y a cette société qui existe, qui cultive, qui produit et qui approvisionne les dispensaires.
Voilà, la sûreté, ça marche. Voilà, toujours le même produit, au moins c'est clean pour ceux qui cherchent des combinaisons ou autre. C'est bien.
Voilà, donc ils sont parvenus à le faire en Angleterre et pas nous, en attendant. parce que nous tout est bloqué par Darmanin, alors bon, qui visiblement va sauter une fois que les municipales auront lieu, puisqu'il a expliqué qu'il allait quitter le ministère de l'Intérieur. Mais je suis pas sûr que celui qui va lui succéder soit mieux que lui sur le sujet, voire pire, bien pire même. Voilà, on va voir. En tout cas, moi je dis quand même un peu bravo aux Anglais pour y être parvenus, puisque c'est quand même ça s'est fait assez rapidement. À suivre. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on fait ? On se réécoute un peu de musique peut-être, non ?
Ouais.
Avant d'aller aux États-Unis et d'évoquer ce qu'a fait le gouverneur du Maryland.
On va en rester dans les mêmes années et dans la même époque.
On dit 1, on dit 2, on dit 3, on dit 4. Allez.
Marijuana, yes. C'était toujours
extrême onction.
Voilà, Bauka, forcément, de la petite musique de chambre.
Voilà. Un morceau collector qui est un peu vieilli, mais il y a un morceau collector quand même. Voilà, donc on va aller au Maryland. Le gouverneur du Maryland qui s'appelle Wes Moore, et il a gracié, écoutez bien, plus de 175 000 personnes qui ont été condamnés pour des infractions mineures liées au cannabis et à ses accessoires. Ses accessoires, c'est quoi ces accessoires? J'ai trouvé ça drôle. Bon, c'est une traduction, c'est un peu normal. Une mesure de clémence de grande ampleur, la plus importante de ce type aux États-Unis, qui intervient près d'un an après que le Maryland a mis en œuvre la légalisation du cannabis. Et donc voilà, c'est lundi dernier, donc il y a un peu plus de 15 jours, plutôt, que Wes Moore a prononcé ses amnisties, en expliquant la nécessité de traiter les conséquences à long terme de la criminalisation, même si l'État va de l'avant avec la légalisation du cannabis. La légalisation à elle seule ne permet pas de revenir en arrière sur les décennies de dommages causés par cette guerre contre la drogue. Voilà ce qu'il a déclaré lors d'une conférence de presse. Il a précisé qu'alors que le Maryland s'enorgueille aujourd'hui de posséder l'un des marchés légaux du cannabis les plus équitables du pays, il est crucial de gracier également les comportements antérieurs liés à des infractions liées au cannabis. Les grâces concernent environ 100 000 condamnations pour délits mineurs liés au cannabis et 75 000 pour la parafarnélie. Voilà, c'est ça les accessoires liés au cannabis. Possession de bang, grinder, feuilles, briquets peut-être, je sais pas. Enfin, c'est quand même fou que voilà, on pouvait quand même être poursuivi aussi pour ça. Voilà, dans certains cas, la grâce est accordée à titre posthume aussi. Le procureur général du Maryland, Anthony Brown, a salué l'action du gouverneur comme étant attendue depuis longtemps, soulignant les injustices raciales perpétuées par les lois antérieures sur le cannabis. Bien que le décret s'applique à tous ceux qui répondent à ces critères, son impact est une victoire triomphale pour les Afro-Américains et les autres habitants du Maryland de couleur qui ont été arrêtés, reconnus coupables et condamnés de manière disproportionnée. Voilà, je vous cite les propos du procureur. Quel vent de fraîcheur, c'est chouette d'entendre ça. Voilà, alors les conditions, voilà, les critères d'éligibilité hein, pour être amnistié, voilà, il faut, voilà, donc c'est des condamnations pour délit de possession de cannabis, condamnation pour usage ou possession avec intention d'usage d'accessoires liés aux drogues associées à la consommation de cannabis sans autre chef d'accusation, condamnation connexe à la culpabilité ou à la mise à l'épreuve avant jugement. Accusation survenue avant le 1er janvier 2023, date à laquelle les quantités de cannabis utilisées à des fins personnelles ont été dépénalisées. Voilà, donc les tribunaux du Maryland vont mettre à jour leurs registres électroniques dans un délai de 2 semaines pour tenir compte des condamnations graciées. Le ministère de la Sécurité publique et des services correctionnels a lui été chargé de mettre en place une procédure permettant d'indiquer sur les casiers judiciaires qu'une condamnation a été graciée, ce qui devrait là prendre plutôt autour de 10 mois. Puis dans cet article de Newsweed, on a également les propos et l'analyse de Sarah Gersten, qui est directrice exécutive du Last Prisoner Project, c'est-à-dire le projet du dernier prisonnier, qui a salué l'action du gouverneur comme une étape cruciale vers la rectification des injustices passées liées à la politique du cannabis. Le Last Prisoner Project a joué un rôle déterminant dans la défense de la justice en matière du cannabis dans tout le pays, et il est fier de participer à l'annonce historique d'aujourd'hui, dit Madame Gersten, qui constitue une étape cruciale pour commencer à réparer les erreurs de notre approche ratée de la politique du cannabis. Toujours le gouverneur ensuite qui a signé donc ce décret en utilisant le stylo pour redresser l'histoire. C'est beau. Symbolisant l'impact significatif des actions législatives et exécutives dans la lutte contre l'emprisonnement injustifié pour les délits liés au cannabis. Voilà, donc action sans précédent dans le Maryland qui fait écho à des mesures similaires au niveau fédéral et dans d'autres États.
Bah oui, il a fait nous deux petites choses bien, Joe Biden.
Ben oui, puisqu'il avait accordé des grâces massives pour les infractions fédérales liées à la possession de cannabis, récemment, hein, il y a quelques mois.
On l'avait évoqué.
On en avait parlé, ouais. Et en outre, eh bien, on apprend aussi que des États, on sait aussi que des États comme le Massachusetts ont pris des mesures de clémence. Mais là, bon, le Maryland se distingue par l'inclusion des condamnations pour usage d'accessoires. Bon. Et en avril, les autorités du Maryland en avril ont annoncé les gagnants d'une loterie de licences de cannabis unique en son genre, destinée aux candidats à l'équité sociale, approuvant 174 cultivateurs, transformateurs et dispensaires. Cette initiative reflète l'engagement du Maryland à créer un marché du cannabis équitable et ouvert à tous. Mais pour finir, un petit point noir, je trouve, quand même, dans cette actu au sujet du Maryland, puisqu'on apprend quand même que les grâces n'entraîneront pas la libération des personnes actuellement incarcérées. Alors ça, c'est vraiment dommage, quand même. Donc, il y a des gens qui sont en tôle. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut comprendre de cette phrase, en fait. Je ne sais pas si c'est une mauvaise traduction ou si les personnes qui sont incarcérées ne rentre pas dans les conditions pour pouvoir bénéficier de la grâce, ce qui voudrait dire que bon, peut-être qu'effectivement ce sera des personnes qui auraient été reconnues coupables de trafic, et du coup ben là la décision du gouverneur ne s'applique pas à eux. Mais bon, voilà, je comprends pas en tout cas cette phrâse, parce que si effectivement il y a une grâce et que vous êtes en prison pour des faits mineurs, bah, l'intérêt c'est quand même qu'on puisse vous libérer, mais voilà, je sais pas comment comprendre cette phrase. Voilà. Mais bon, ça représente quand même une action, une étape importante vers une justice équitable pour les personnes affectées par les lois sur le cannabis. Et on espère effectivement que l'action du gouverneur Moore puisse inspirer d'autres réformes ou d'autres gouverneurs dans d'autres États pourraient, par exemple, prendre l'initiative d'une mesure similaire à suivre pour le reste des États-Unis. On verra. On reste aux États-Unis maintenant et on va aller en Caroline du Nord, où le Sénat de la Caroline du Nord, qui est un des derniers États américains, apprend-on, sans cannabis médical. Voilà, parce que il y en a plus beaucoup. Hein. Là, quasiment partout, dans tous les États des États-Unis, il y a au moins une mesure en faveur de quelque chose pour le cannabis, que ce soit médical ou d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors, si la mesure est adoptée lors du vote qui a eu lieu le 23 ou le 24 juin, donc aujourd'hui en fait, c'était, voilà, pas le 23, donc on va dire ou aujourd'hui ou vendredi, hein, donc si c'est voté, la mesure sera transmise à la Chambre des représentants de l'État de la Caroline du Nord, où les efforts précédents pour garantir l'accès légal au cannabis médical s'étaient heurtés à l'opposition de, devinez qui, bah, des Républicains. Comme bien souvent. Donc les législateurs de l'État ont intégré le cannabis médical dans un projet de loi initialement conçu pour réglementer le chanvre. Le projet de loi révisé propose la légalisation du cannabis pour les personnes souffrant d'une condition médicale débilitante, d'après l'Associated Press. Le Sénat a adopté ce projet de loi par un vote décisif de 33 contre 9. 9 républicains s'étaient ralliés au projet. Donc, il y a quand même des républicains qui sont capables de prendre des bonnes décisions sur le sujet. Mais ça, on le sait déjà aussi. Hein, il y en a quand même. Mais bon, avec ce qui vient de se passer depuis ces dernières années, avec l'arrivée de Trump, c'est plus compliqué, malheureusement. Mais il y aura quand même des républicains qui sont pro-légalisation. Et notamment le républicain Danny Britt, qui avait joué un rôle déterminant dans l'ajout du cannabis médical au projet de loi sur la réglementation du chanvre, en s'appuyant sur la nécessité de prendre de l'avance sur une éventuelle reclassification du cannabis par le gouvernement fédéral, puisque on a déjà parlé, hein, l'administration Biden a rétrogradé le cannabis de l'annexe 3 le cannabis à l'annexe 3 des substances contrôlées, ce qui a fait bouger un peu les lignes récemment. J'ai perdu ma ligne. Voilà, le ministère de la Justice est actuellement ouvert aux commentaires du public sur cette proposition jusqu'à la mi-juillet. Et malgré les progrès réalisés par le Sénat, l'avenir du projet de loi à la Chambre des représentants reste incertain. Le président de la Chambre des représentants d'État, Tim Moore, s'est montré peu enthousiaste quant aux perspectives d'avenir du projet de loi. Donc bon. À voir, voilà, c'est pas gagné, voilà. À la fin de l'article, il y a cet article sur les Eastern Band of Cherokee Indians, qui est le premier et seul groupe à vendre du cannabis médical en Caroline du Nord, qui a lancé des plans pour étendre ses ventes de cannabis à tous les adultes âgés de 21 ans et plus. Et cette tribu, l'année dernière, a voté en faveur de la légalisation du cannabis à usage adulte dans son territoire, Kuala. Les ventes de cannabis médical ayant commencé le 20 avril de cette année. Donc voilà, il y a une bande de Cherokee dans l'État de la Caroline du Nord qui est carrément en avance même sur les lois de l'État en question. La reclassification potentielle du cannabis au niveau fédéral ajoute une nouvelle couche de complexité aux efforts législatifs de la Caroline du Nord, puisque si le cannabis était reclassé comme substance de l'annexe 3, son utilité médicale serait reconnue, ça pourrait faciliter la recherche. Voilà, bon, ça on sait bien que c'est un des obstacles au développement des recherches, quoi. Et pour la Caroline du Nord, la légalisation proposée représente une étape prudente mais essentielle pour répondre aux besoins des patients qui souffrent. Voilà. Et donc on espère quand même que ça va marcher, même si c'est pas évident et qu'il y a quand même toujours des obstacles. Voilà. Bon. On verra ce que ça donne, même si pour l'instant le Sénat a approuvé la légalisation. Voilà, à suivre. Ouais, le Sénat de Caroline. T'as pas mis ton micro?
Encore avec mon micro, bah je disais juste que c'était le Sénat de Caroline du Nord.
Oui, oui.
Pour, voilà. Qu'on est toujours aux États-Unis sur Cannabis Circus.
Voilà.
Sans de problème au garage. C'est un petit coup de musique.
Allez, encore un peu de musique et on parle des terpènes.
Ouais, parce que là, 12 minutes, ça va être long sur les terpènes, non?
Vas-y.
Allez, vas-y, fais.
Envoie.
Roule.
Ok, j'ai ma petite plante qui pousse. Y'a les petits joueurs qui toussent. Double cabine à la bouche. J'fume même sous la douche. Tête de fripouille qui passe à la fouille. Une petite boulette qui roule, un vieux couteau qui rouille. Lumière rouge, yeux rouges, vive le quartier rouge. Bitch, follow me. Un joint pour deux, j'fais des économies. Je détaille un kilo en 7 minutes. J'te laisse le mégot, j'peux pas faire dodo sur le pédodo. Amsterdam, Hollanda, Atlanta. Envoie la CA. J'fume dans les rues de la French Riviera. Même où y'a la peine de mort comme à Dubaï.
J'suis mis dans la coke, ni l'MDMA. Mon shit, je balade jusqu'aux USA. 10 grammes de Tikush, 10 grammes de Buffra. California, Colombia, Katama. Bow. J'suis dans un délire weed life. J'suis dans un délire. J'passe l'immigration. Les poches remplies de pochetons. Bow.
Big fumé. Big fumé. Big fumé. Big fumé.
Entre les doigts, puis tout petit zigzag entre les lois. C'est Halloween, ma gueule n'est pas belle à voir. Ma weed, elle attend l'arrosoir. On envoie du bois, serveur amène à boire le temps que je prépare un pétard. De substance dans le gamas. J'suis bourré comme j'aime ralasse. Ma weed n'est pas homologuée. J'ai fumé avant de monter sur scène. J'suis pété, j'bouge plus comme Stromae. En roulant avec OCB, on a payé un yacht. Ah, Bolloré, faut pas que la police me fâche. J'ai plus rien à fumer, j'suis fâché. De panne un petit touré.
On voit la substance, le grinder, livraison à domicile, on te fournit, même le fire. 113 miles affichés au compteur. Laisse-moi rouler et allume le monster.
Big fumé. La pièce est parfumée. La con s'est confinée. Weed life validé.
Big fumé. Big fumé.
On est devenu fumeur parce qu'on était dealer. Enfoiré, je viens de me faire planter par le livreur. Deux têtes de weed dans le grinder. Plaquette de sang pour passer l'hiver. Je fumerai des spiffs jusqu'à 60 berges. Je vis de la bouteille de Belvedere.
Big fumé.
Mais voilà, Rimka, un big fumé.
Voilà. Morceau qu'on n'avait pas passé depuis longtemps.
Ouais.
Très longtemps. Allez, on va parler des terpènes. Un article du Cannabiste intéressant qui nous parle d'une étude financée par les National Institutes of Health et menée par des chercheurs de l'Université d'Arizona, donc quelque chose de sérieux, et qui donc a fait toute une étude sur les terpènes et leur potentiel pour soulager les douleurs. Et donc voilà, ils ont cherché à voir un peu quelles étaient ces terpènes, qu'est-ce qu'on pouvait en faire, est-ce que ça peut éventuellement remplacer ou en tout cas s'adjoindre à des opioïdes en cas de douleur forte. Voilà, donc tout ça, ils ont cherché, ils ont trouvé des choses.
Ah, ils ont cherché, ouais, jusqu'à dire que les résultats montrent que les terpènes offrent une réduction de la douleur comparable à celle de la morphine, mais sans les effets secondaires indésirables, ouais, associés. Génial, non?
Ah ben oui, c'est même très prometteur, très prometteur. Et je rigole intérieurement. encore une fois, je pense à notre situation en France, toutes les bêtises qu'on a entendues et qu'on entend encore sur le cannabis, vraiment cette volonté de pas vouloir savoir ce que ça recouvre, les composants, ce qu'on pourrait en faire. Enfin, c'est quel gâchis, c'est vraiment vraiment quel gâchis, je sais pas quoi dire, quoi. Bon, allez, continuons. Donc ces terpènes, il y en a pas que dans le cannabis, en fait il y en a dans plein de plantes.
Voilà, c'est des composés aromatiques.
Voilà, tout simplement, qu'on trouve dans de nombreuses plantes, en particulier il y en a dans le cannabis, et ils possèdent des propriétés. Ils sont souvent associés aux arômes distinctifs du cannabis. Ces molécules sont volatiles, elles jouent un rôle crucial dans les effets thérapeutiques de la plante. Et donc il n'y a pas que les cannabinoïdes, pas que le CBD, le CBDN, le THC, le cannabigérol, etc. etc. Voilà, il y a les terpènes. Et chaque terpène possède des caractéristiques uniques. Alors écoutez bien, parce que là vous allez entendre des mots que vous n'avez jamais entendus. Nous on n'avait jamais lu ça, enfin, en tout cas pour certains. Donc caractéristiques uniques allant de l'alpha-humulène, vous avez bien entendu, alpha-humulène, connu pour ses propriétés anti-inflammatoires, le linalol, alors là on le connaît depuis plus longtemps, souvent utilisé pour ses effets calmants.
Voilà, donc c'est deux petits terpènes, on va apprendre à les connaître hein, quand même. Hein. Il y en a cinq pour l'instant. Donc l'alpha.
Humulène.
Anti-inflammatoire. Et le linalol. Linalol.
Effet calmant.
Voilà. On va se les retenir. Hein.
Voilà. Alors, ces terpènes, il faut bien savoir qu'en fait, ils ont une capacité à interagir avec le système endocannabinoïde du corps humain. Parce que dans le corps humain, on vous le rappelle, on a un système endocannabinoïde. Parce que si on n'avait pas, eh ben, on ressentirait pas les effets du cannabis, ou en tout cas, il n'y aurait pas d'action, pas d'interaction. Mais là, on a un effet endocannabinoïde dans notre corps. Voilà. Donc ce réseau complexe de récepteurs de notre système endocannabinoïde, eh bien, il régule diverses fonctions physiologiques, notamment la douleur, mais aussi l'humeur et l'appétit. Et donc les chercheurs de l'Université de l'Arizona, ils ont découvert que certains terpènes ont la capacité de moduler ces récepteurs, ce qui offre un potentiel thérapeutique absolument considérable. Et donc cette étude récente a mis en lumière 5 terpènes spécifiques, donc on vous a déjà parlé de l'alpha-humulène, mais il y a aussi le bêta-cariophyllène, le bêta-pinène, le géraniol également, et donc le linalol. Voilà. Alpha-humulène, bêta-cariophyllène, bêta-pinène, géraniol et linalol. Ils sont 5.
Ouais, 5 terpènes isolés, ils sont au moins 5.
Oui, parce qu'il y en a peut-être d'autres, ils n'ont pas encore isolé.
5 terpènes isolés et connus.
Donc ils ont été testés individuellement, mais aussi en combinaison, révélant des effets analgésiques significatifs. Et donc, forcément, ça ouvre la voie à plein de nouvelles approches pour le traitement de la douleur, et donc sans les effets secondaires dont on a déjà parlé à de nombreuses reprises des opioïdes. Donc cette étude, elle a été publiée dans la revue Pain, ce qui veut dire douleur, et elle a placé les terpènes du cannabis et de la morphine dans un face-à-face inattendu pour évaluer leur efficacité respective dans le soulagement de la douleur. Et donc les résultats apparemment sont surprenants, puisqu'ils ont la capacité à réduire la douleur de manière comparable, voire supérieure à la morphine. Alors ça, j'avoue que franchement, ça m'a quand même surpris. Alors la morphine, elle est quand même efficace, mais voilà, elle est quand même souvent accompagnée de plein d'effets secondaires qu'on n'a pas forcément envie de ressentir.
Oui, qui est très addictive surtout. Oui.
C'est très addictive, donc tolérance accrue, hein, c'est-à-dire qu'en gros, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'on en prend mais il en faut plus après, c'est ça, hein, quand on veut se soulager de la même douleur, faut en prendre plus. Et en plus, en gros, plein de problèmes gastro-intestinaux, en gros, ça fout la chiasse, quoi. Voilà, c'est génial. En revanche, les terpènes, lorsqu'ils sont utilisés en injection, parce que oui, ils ont fait ces études-là, ils ont essayé de voir si on pouvait utiliser les terpènes en injection, et ils ont donné la possibilité de voir la douleur s'est réduire de manière très importante, sans provoquer les effets secondaires. Et l'absence de réaction de récompense significative suggère également que les terpènes pourraient être utilisées sans risque de dépendance. Donc pas d'effet secondaire, pas de dépendance. Donc voilà, perspective plus que prometteuse. Voilà, j'ai dit l'essentiel, je pense. Je sais pas si j'ai.
Bon, après, vous expliquez pourquoi les terpènes surpassent la morphine, etc. Et que c'est vraiment l'enquête
ouais.
qui change tout. Ouais.
Alors,
je sais pas si t'as vu le mot de la fin.
Bah attends, juste oui, le petit truc là, quand même, le bêta-caryophyllène. Agit comme un anti-inflammatoire puissant. C'est ça que je voulais dire que j'avais raté. L'ulinalol, lui, c'est pour plutôt pour ses effets anxiolytiques et sédatifs. Mais non seulement ça soulage la douleur, mais ça peut aussi améliorer l'état général des patients en réduisant l'inflammation et l'anxiété. Et ces terpènes présentent aussi une grande flexibilité d'administration. Parce que la morphine, en gros, par injection, on la prend par injection ou par pilule, en fait. Mais les terpènes, on peut les prendre de différentes manières. Inhalation aussi, application topique. Est-ce que c'est quoi, ça, tu sais?
Sur un lieu, je pense.
D'accord.
Une crème ou un onguent. Ou...
D'accord. Et donc, voilà, ça offre beaucoup plus d'options pour les patients et les praticiens. Voilà.
Et donc pour juste bien finir quand même, c'est vers une application dans le traitement de la douleur qui serait assez phénoménale.
Ah ben oui, ça...
Voilà, avec toutes les propriétés que tu as déjà données, anti-inflammatoire, anti-anxiolytique, en plus d'être anti-douleur. Et donc, non tant négligé, ces terpènes au profit des cannabinoïdes tels que le THC ou le CBD révèlent aujourd'hui un potentiel thérapeutique incroyable. L'étude récente de l'université donc a mis en lumière leur capacité à soulager la douleur de façon comparable, voire supérieure à la morphine. Voilà. Et donc, comme on est à l'heure, le futur du traitement de la douleur pourrait bien être marqué par ces composés naturels offrant une alternative sûre et efficace aux opioïdes traditionnels. Voilà. C'est l'article que je voulais finir avec cet article.
Très intéressant.
Et plein d'espoir pour ces petites terpènes. Voilà.
Un article que vous pouvez retrouver sur la page Facebook du Cirque, un article du cannabiste, et ainsi que tous les articles dont on a parlé ce soir, qui sont donc voilà, sur la page Facebook du Cirque Lyon. Eh bien, Cannabis Circus, c'est fini pour ce soir, et on se retrouve la semaine prochaine avec peut-être des invités, pour qu'on en parle juste après, ce qui nous ferait une émission peut-être un peu différente. Alors, ça sera peut-être pas la semaine prochaine, ça sera peut-être la semaine d'après, mais on vous prépare une émission un peu spéciale avec... des camarades cannabinophiles qui tiennent une petite boutique à Lyon.
Non, moi pas là, lundi pas là.
Eh ben tant pis, un autre lundi. Allez, c'est pas grave,
donc
maintenant
un jour parfait, parfait. Le 8 parfait.
D'accord. Eh ben allez, maintenant chasseur de son qui reçoit un invité, un DJ qui se prépare, qui est là, qui arrive, et donc voilà, c'est chasseur de son. Et on vous souhaite une bonne soirée, eh ben avec chasseur de son. Allez,
Total,
au revoir.
Parce que nous sommes de tous les pays d'Europe, celui où les jeunes.